Radio Okapi. Le journal Belinda Bosuma.
Les activités tournent au ralenti ce lundi à Bénouville. Plusieurs membres des groupes de pression ont barricadé depuis hier soir certaines artères de la ville et réclament la fin de l'état de siège qu'ils jugent inefficace. La ville reste quadrillée par les forces de sécurité pour contenir toute tentative de manifestation. Troisième anniversaire ce 24 janvier de la prise de pouvoir par Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État avait promis un certain nombre de choses. Aujourd'hui, trois ans après, qu'en est-il? Quelques habitants de Bukavu s'expriment à cette occasion. Et puis, le ACR poursuit l'enrôlement biométrique des retournés, expulsés, rapatriés et déplacés internes au Kasaï. Opération démarrée l'an dernier. Le but est d'avoir une cartographie de la situation des vulnérables dans cette région, explique le chef de bureau intérimaire du ACR à Tshikapa, Philippe Onana, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. La ville de Beni s'est réveillée ce matin sous tension, notamment dans sa partie ouest. Des manifestants, la plupart membres des groupes de pression qui réclament la fin de l'état de siège qu'ils jugent inefficace, ont commencé à barricader la route tard la nuit dernière jusqu'à ce matin. Cela malgré un important dispositif sécuritaire mis en place depuis hier dans les endroits chauds de la ville afin de contenir toute tentative de manifestation. C'est un reportage de Marc Maro Fimbo.
Si dans le centre-ville, la circulation reste normale, ce n'est pas le cas dans la partie ouest de la ville. Là-bas, les jeunes manifestants, membres des mouvements citoyens et d'autres groupes de pression, ont commencé à barricader depuis hier soir certaines artères des quartiers tels que Boutili, Kanzulinzuli, Kalinda, Mankampagne, Kangaembi et autres. Des coups de feu ont été même entendus ce matin quand les forces de l'ordre se sont retrouvées face à ces jeunes qui opposaient une résistance dans la commune de Moulekera. À Kanzuli, un passant s'est vu sa moto incendiée. Entre-temps, les jeeps de la police continuent de sillonner ces quartiers où quelques jeunes ont été interpellés. De leur côté, les organisations de la société civile qui s'opposent depuis hier soir à cette démarche ont appelé à un dialogue entre les manifestants et les autorités de la ville. Déjà, lors de la parade organisée hier à cette fin, le commandant de la police en ville de Beni avait demandé aux initiateurs de la manifestation de sursoir à celle-ci sans succès. Pour l'instant, la ville reste quadrillée par les forces de sécurité. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Entre-temps, en Ituri, le calme est revenu ce matin à Katoto, environ 30 km au nord de Bounia, dans le territoire de Djougou. C'est après des tirs entendus la nuit dernière dans cette entité. Selon des sources coutumières, des hommes armés non identifiés ont fait incursion dans ce centre commercial où ils ont tué 5 personnes et blessé 2 autres. Un déploiement important des phares d'essai est observé dans ce milieu. Récit des faits avec Martial Kizabiamungu.
L'incident est survenu dimanche soir vers 20h locale, au moment où beaucoup d'habitants du Katoto centre s'apprêtaient à aller se coucher. 4 hommes non identifiés en tenue civile se sont présentés devant une boutique pour chercher de la boisson. Selon Désiré Louvangiré, chef des villages, ces bandits ont ouvert les feux dans toutes les directions. Première victime, une jeune fille de 20 ans touchée par balle et qui est morte sur le champ. Dans cette confusion, 4 autres personnes seront touchées par balle, perdues et décéderont quelques minutes après. Ces malfrats, avant de se retirer de cette entité, ont apporté une importante somme d'argent volée dans une boutique, renseigne l'autorité locale. C'est lundi matin, malgré les calmes qui s'observent à Katoto centre, une psychose règne parmi la population qui craint d'autres exactions des hommes en armes en errance dans la zone. Le commandant de FRDC basé à Masumbuko s'est rendu sur place avec 2 militaires pour rassurer la population. Des sources sécuritaires indiquent que des enquêtes sont en cours pour tenter d'identifier l'ennemi. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. La recrudescence des cas de kidnapping inquiète nombreux acteurs dans le territoire de Masisi, selon un député provincial élu de Masisi. Au moins 9 personnes ont été kidnappées rien qu'au courant de la semaine dernière, dont 4 hommes hier dimanche. La même source indique que les auteurs sont diversifiés, comprenant entre autres les combattants des groupes armés ayant fui les centres de reddition. Le député provincial Alexis Baunga demande l'implication des forces de sécurité et des services de renseignement. L'élu de Masisi est au micro de Bernard Denyangi.
Les FRDC ont fourni une certaine prouesse qui a donné espoir à la population. Mais depuis déjà 3 semaines, une nouvelle forme d'insécurité s'observe dans l'état de Massis. Il s'agit notamment d'enlèvements entre Sake et Kingi, et aussi dans la partie Massis centre, donc groupement Bafuna, groupement Wabo et même groupement Banyungu, où chaque jour presque, on est en train de kidnapper et les gens sont libérés après le paiement d'une rançon. Hier, par exemple, 4 personnes dans le village de Bouzé ont été kidnappées. C'est ce matin qu'on a libéré ces gens après les paiements d'une rançon de $500 pour chaque personne, alors que la population est extrêmement pauvre. Ce qui enlève les gens, ce sont des groupes armés qui auraient même donné certains éléments au processus de démobilisation, mais qui continuent à endeuiller la population. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander au FRDC, qui contrôle la zone, de tout faire pour mettre en déroute ces groupes armés qui sont dans la zone-là, qui continuent à insécuriser la population.
Rappelons que parmi les victimes des enlèvements dans le territoire de Massissi figurent plusieurs agents humanitaires. Les derniers en date, le 7 janvier dernier, 3 staffs de l'ONG Concern ont été kidnappés avant d'être relâchés quelques jours après. Justement, pour juguler la criminalité croissante imposée par un réseau transfrontalier des bandits présumés qui opèrent au Nord Kivu notamment, le gouverneur de province appelle à la mutualisation des stratégies sécuritaires avec les provinces voisines ainsi qu'avec les pays voisins tels le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Le lieutenant-général Constant Ndima l'a dit ce week-end lors de la présentation des bandits présumés à la presse à Goma. Ce réseau s'illustre par des kidnappings, des braquages des véhicules et des personnes, des braquages des convois humanitaires ainsi que d'autres activités criminelles menées en plein jour à Goma et dans les pays voisins. Je vous propose d'écouter le lieutenant-général Constant Ndima dans ses propos recueillis par Gabriel Ouamenia.
Que ça soit ailleurs, nous allons collaborer avec nos services de sécurité, que ça soit au sud Kivu, au Maniema, à Ituri, même avec nos amis d'à côté, l'Ouganda ou le Rwanda, pour qu'ensemble nous conjuguons cet effort-là pour mettre hors d'état de nuire ces bandits, ces criminels qui endeuillent notre province, qui endeuillent la République démocratique du Congo, ainsi donner la paix à notre population qui en a beaucoup besoin. Voilà, je lance un appel aussi à notre justice, qu'ils fassent diligence d'accompagner la police, d'accompagner le service de sécurité, d'accompagner notre armée dans ce genre de traque. Ce sont eux qui doivent être notre bras séculier dans ce traque de hors la loi, de notre traque de criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même, que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population.
Entre-temps, une équipe d'experts militaires du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL est en mission depuis hier dans la province du Sud Kivu, arrivée à Uvira en passant par le Rwanda et le Burundi. L'équipe en provenance de Goma au Nord Kivu s'est envolée ce lundi vers Lusenda dans le secteur de Tanganyika, territoire d'Uvira. Les experts militaires en provenance de la RDC, du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda, de l'Angola, du Soudan, du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud font partie de cette mission de vérification conjointe. Je vous le disais en titre, ce 24 janvier, aujourd'hui donc, marque le 3e anniversaire de la prise de pouvoir par Félix-Antoine Tshisekedi. La passation de pouvoir s'est déroulée de façon pacifique avec Joseph Kabila. Dans son discours du 24 janvier 2019, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait annoncé la libération de tous les prisonniers politiques, l'instauration de l'état des droits, la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que la pacification du territoire national par l'éradication des groupes armés. Aujourd'hui, 3 ans après, les habitants du Sud Kivu à Bukavu s'expriment à cette occasion au micro de Rachel Kisembangu.
Quant à ce qui concerne la liberté d'expression, le respect des droits humains, aujourd'hui nous voyons les gens s'exprimer en toute liberté. Nous avons vu les exilés politiques rentrer au pays. Les budgets de notre pays étaient à 4 milliards et aujourd'hui nous avons 10 milliards. Et donc nous pouvons nous dire que le président Félix est en train de travailler pour améliorer le bien-être social.
Je ne peux que lui adresser mes sincères félicitations. Je pense que nous ne devons pas être plus exigeants envers lui. On doit lui laisser le temps pour qu'il puisse travailler. Il ne peut pas toucher toutes choses qui composent la RDC au même moment.
3 ans depuis que Félix est au pouvoir, je n'ai pas vu vraiment beaucoup de choses s'améliorer dans le pays.
Et nous n'espérons à rien parce qu'il n'y a qu'une année qui lui reste à travailler. L'autre année, ça sera une année de campagne.
Concernant la pauvreté, jusque-là, on ne sent pas encore l'implication du gouvernement dans le cadre de la création des emplois, dans le social. Mais on a constaté quand il a pris le pouvoir, le pays était dans un état de non-état.
Comme je suis là, je n'ai jamais vu ce que le président a déjà fait pour nous. Et puis, le secteur de la communication et des médias en RDC est en crise et nécessite une analyse holistique pour y apporter des réponses adéquates. Déclaration de Gabi Kouba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, à la veille de l'ouverture des états généraux qui se tiendront du 25 au 28 janvier 2022 à Kinshasa. En plus de l'UNPC en tant que corporation de tous les professionnels de la presse en RDC, prendront part à ce forum, notamment les délégués de la présidence de la République, du gouvernement, du Parlement, du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que ceux du monde scientifique. Le président de l'UNPC donne ici la portée de ses états généraux. Il a été joint par Honoré Missenga Kalala.
Le secteur connaît d'énormes problèmes. Cette crise nécessite des réflexions et des réponses adéquates pour la bonne marche du secteur. D'où, pendant quelques jours, les experts de différents horizons viendront pour réfléchir sur des problèmes ainsi que des solutions à apporter, notamment l'assainissement du secteur de la presse, le secteur de la publicité, le cadre légal qui doit aussi être révisité parce que nous avons l'ordonnance et loi de 1981, nous avons la loi de 1996 qui n'ont pas pu intégrer l'arrivée des médias en ligne ou encore d'autres métiers liés à l'évolution et à l'innovation technologique. La question de la redevance audiovisuelle également sera débattue parce que le cadre légal est un peu injuste. On estime que la redevance audiovisuelle ne peut pas être seulement l'apanage des médias publics.
Direction la province du Maniema. Après 5 mois de grève sèche, le personnel de santé non médecin et administratif ont accepté de reprendre le service ce lundi 24 janvier. C'est après la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et le banc syndical à Kindu. Ces professionnels ont obtempéré aux mots d'ordre donnés au niveau national. Constat de Florence Kizalunga.
Déjà à partir de 9h à l'hôpital général de référence de Kindu, tout a été en mouvement. Les blouses blanches étaient visibles ça et là. Tous les bureaux ouverts dès le matin. Les jardiniers avec coupe-coupe et bêche à la main, visibles pour les sarclages de l'hôpital déjà envahis par les herbes. De leur côté, les malades étaient contents et surpris de voir ces professionnels reprendre les services. Les médecins directeurs remercient la volonté du gouvernement en signant ces protocoles d'accord. Docteur Michel Djunga.
Aujourd'hui, il y a une reprise du service à tous les niveaux et nous remercions toutes les autorités qui ont intervenu et c'est peut-être une recommandation qu'on pourra faire pour toutes les deux parties de voir comment prendre des mesures pour qu'il n'y ait plus de grèves pareilles parce que ça nous a mis mal à l'aise.
Rappelons qu'après leur rencontre du week-end, les porte-parole de circonstances de ces professionnels a invité les autres à emboîter les pas. Dieudonné Selemani.
Les deux parties qui étaient en pourparlers à la fin des négociations, ils ont signé le protocole. Vraiment, nous invitons tous les travailleurs du secteur de la santé, professionnels et administratifs de la santé, de reprendre le travail à dater de ce lundi 24 janvier 2022.
Kindu. Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, Monseigneur Titre and George, enfin intronisé comme le 5e archevêque de l'Église anglicane du Congo. C'est pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'était lors d'une cérémonie organisée hier au Jardin botanique de Kinshasa. Cet événement a réuni les représentants de cette grande communauté venue de plusieurs coins du monde. Des détails dans ce reportage de Blaise Shindani Kambala.
Le nouvel archevêque de cette communauté envisage mettre à la disposition du peuple de Dieu une vie abondante sur les plans tant spirituels que matériels durant son quinquennat. Monseigneur Titre André Georges.
La mission que j'ai, c'est la mission que Christ nous a laissée. C'est la mission de prêcher la bonne nouvelle pour que les gens puissent se convertir. Il a ajouté aussi que cette mission consistait à donner la vie abondante, c'est-à-dire la vie sur l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Alors c'est ça la mission principale que nous allons le faire et c'est pour tous les peuples de Dieu.
Monseigneur Zachary Massimango, archevêque sortant, quant à lui, dit avoir exécuté à 80% le plan qu'il avait pour son église et s'est dit fier à céder le pouvoir à la personne qu'il fallait.
Je suis fier de terminer mon mandat et le plan que j'avais pour cette église, je l'ai exécuté à 80%. C'est-à-dire, je me suis penché sur d'abord l'unité de l'église. En plus, je me suis penché sur la reconnaissance de l'église vis-à-vis du gouvernement congolais. J'ai arraché beaucoup d'arrêtés qu'on n'avait pas auparavant qui vont servir comme outil de leadership pour l'archevêque qui me succède. Donc je suis très fier puisque j'ai cédé à quelqu'un qui pourra travailler pour continuer comme vous avez suivi l'œuvre que nous avons commencée.
Signalons par ailleurs que cette communauté existe en République démocratique du Congo depuis maintenant 125 ans.
Actualité internationale.
Nous sommes d'abord au Burkina Faso. Des sources sécuritaires font état de l'arrestation du président Roch Marc Christian Kabore après des mutineries qui ont éclaté hier dimanche matin dans plusieurs casernes de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, et dans quelques villes de la province. Une déclaration est attendue dans les prochaines heures. Au Cameroun, un incendie provoqué par des feux d'artifice a tué au moins 16 personnes dans la nuit de samedi à hier dimanche. C'était dans une discothèque d'un quartier huppé de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Ce drame survient alors que le pays accueille la Coupe d'Afrique des Nations CAN. Au Cameroun, les incendies ne sont pas rares dans les établissements de nuit, de même que les bousculades, parfois mortelles, mais le bilan de celui-ci est le plus lourd de ces dernières années, indiquent des sources sur place.
L'invité.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, ACR, a démarré l'année dernière l'enrôlement biométrique des retournés, expulsés, rapatriés et déplacés internes au Kasaï. Après Chikapa et Kamonia, cette agence onusienne est à l'étape de Kamwisha où l'opération a démarré le mois de janvier en cours. L'idée est d'enregistrer 200 000 vulnérables dans la région et avoir une cartographie de la situation, explique Philippe Onana, chef de bureau intérimaire du ACR à Chikapa. Il s'entretient à ce sujet avec François Kadima.
Monsieur Philippe Onana, bonjour.
Bonjour Monsieur François Kanima.
Après l'étape de Chikapa, Kamonia, actuellement ce qu'on est à Kamwisha, c'est quoi l'objectif?
Alors l'objectif du ACR dans le cadre de cet enrôlement biométrique des personnes déplacées, des rapatriés, des retournés, des expulsés et des autres groupes de personnes en déplacement est de constituer une base de données qui va permettre d'affiner les stratégies d'intervention des différents acteurs dans la région. En réalité, ce que le ACR vise dans le cadre de ce programme qui est un programme pilote, c'est de se doter d'une base de données qui va permettre non seulement de sécuriser les interventions humanitaires, mais également d'assurer un ciblage qui permettra de toucher directement les personnes qui sont en proie à certaines difficultés. C'est pour ça que l'opération est dénommée enrôlement biométrique des personnes vulnérables, entre guillemets, dans le Kasaï.
Tous ceux qui sont déplacés, qui ont quitté leur milieu, et sont en difficulté, et les rapatriés, alors, qui sont réellement concernés?
Alors, je vais répondre à votre question en deux phases. Hein. Pour la première, qui sont ciblés, c'est les catégories de personnes. Il s'agit des déplacés internes, il s'agit des rapatriés, il s'agit des personnes retournées, il s'agit des personnes qui sont rentrées sous la contrainte de l'Angola, il s'agit également des familles d'accueil des rapatriés, de toutes les précédentes catégories. Donc en termes de catégories, c'est ces personnes-là qui sont concernées. Maintenant, en termes, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, pour l'organisation de l'activité, dans la mesure où c'est un programme pilote et que notre objectif pour le Grand Kasaï, c'est 200 000 personnes, dont 100 000 pour la province du Kasaï, on a travaillé de concert avec les communautés qui ont élaboré des listes en leur sein de personnes qui répondent aux critères que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc c'est sur la base de ces listes-là et après des travaux de vérification avec les membres de la commission des experts, entre guillemets, la commission des experts ici est constituée des membres du gouvernement provincial et de la CNR qui travaillent à la vérification des informations qui sont partagées par la communauté avant que nos équipes ne procèdent à l'enrôlement biométrique. Donc après ce travail de vérification, les personnes qui ont été identifiées par la communauté, vérifiées par la commission des experts, la commission provinciale des experts, peuvent ensuite entrer dans les circuits de l'enrôlement biométrique en lui-même.
Les personnes vulnérables sont concernées. Comment vous les catégorisez?
Alors, on a plusieurs groupes de personnes vulnérables, hein, entre guillemets. Je dis toujours vulnérables, entre guillemets, parce que l'utilisation de ce terme est souvent problématique en termes de catégories, hein, des centaines de catégories diverses de vulnérabilité. Mais celles avec lesquelles on a travaillé immédiatement sont les personnes handicapées, sont les personnes âgées, les femmes seules chefs de famille, les familles nombreuses, les enfants non accompagnés, les personnes qui ont été victimes de torture, les femmes qui ont été victimes de violences, qui ont été victimes ou à risque de violences sexuelles, les familles disloquées. Donc voilà à peu près les principales catégories, mais vraiment il y a des sous-catégories derrière et c'est avec ces éléments-là que nous travaillons pour apprécier qui passent dans les couloirs de l'enrôlement biométrique en ce moment et ou alors plus tard.
Après Chikapa, Kamonia, aujourd'hui Kamwisha, vous êtes déjà à quel nombre de personnes enrôlées?
Alors en ce moment nous sommes à 57 000 personnes à peu près. Nous avons encore quelques jours à passer à Kamwisha où nous continuons cet exercice-là. Nous terminerons certainement à la fin de cette semaine. L'objectif c'est 100 000 personnes, donc il nous restera après qu'on ait atteint le chiffre de 60 000 sur Kamwecha, il nous restera à enrôler relativement 40 000 personnes dans les territoires de Louébo et de Mweka, dont 20 000 pour chacun des deux territoires. Et ensuite, on arrêtera avec la phase pilote.
Qu'est-ce qui va suivre sur place à Kamwecha? J'ai rencontré certaines personnes. Elles ont des difficultés. Elles veulent avoir de l'aide. Est-ce qu'aujourd'hui, le ACER, après cet enrôlement, pense à une réponse de ce genre?
C'est une opération pilote. Ce n'est pas une situation, il ne faut pas qu'on ait des fausses expectatives. Le ACER n'envisage pas d'aller donner des assistances le lendemain de la fin de cette opération d'enrôlement biométrique aux populations qui ont été enrôlées. Non. Et on essaie de le dire avec un renfort de communication aux populations avant qu'elles ne rentrent dans les circuits. L'enrôlement qui est fait en ce moment n'a pas vocation à servi de base d'une distribution ultérieure. Non, simplement que ça nous permet d'avoir une photo réelle de la situation de certaines personnes dans la localité. Maintenant, rien n'interdit que sur la base des assistances que nous recevons, des donateurs, ou que les autres acteurs humanitaires reçoivent, que la base de données qui a été constituée serve également pour les interventions, soit du ICR, soit de ces autres acteurs humanitaires de développement qui sont installés dans la région du Kasaï.
Monsieur Philippe Onana, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux activités du ACR.
Le chef du bureau intérimaire du ACR à Tchikapa s'entretenait avec François Kadima. C'est la fin de ce journal, coordonné par Élisée Chikota Chivueta. Supervision de Martin Sebujangwe, Mimi Kindo était à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de votre attention.